La table du pape Jean.
L'église Saint-Agricole venait d'être entièrement reconstruite. La cathédrale des Dômes, l'église des frères mineurs, celle des frères prêcheurs et des augustiniens avaient été agrandies et rénovées. Les hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem s'étaient construits une magnifique commanderie. Au-delà de la place au change s'élevait une nouvelle chapelle Saint-Antoine. Et l'on creusait les fondations de la future église Saint-Didier. Le comte de Bouville, depuis une semaine, parcourait Avignon sans la reconnaître, sans plus rien trouver des souvenirs qu'il y avait laissés. Chaque promenade, chaque trajet était cause pour lui d'une surprise et d'un émerveillement. Comment une ville, en 8 ans, pouvait-elle avoir changé si totalement d'aspect? Car ce n'était pas seulement les sanctuaires qui étaient sortis de terre, ou bien avaient pris façades différentes, et montraient de toutes parts leurs flèches, leurs ogives, leurs rosaces, leurs broderies de pierre blanche, qui dorait un peu le soleil d'hiver et où chantait le vent du Rhône. Partout s'élevaient hôtels princiers, habitations de prélats, édifices communaux, demeures de bourgeois enrichis, maisons de compagnies lombardes, entrepôts, magasins. Partout, on entendait le bruit patient, incessant et pareil à la pluie du marteau des tailleurs de pierre, ces millions de petits coups de métal contre la roche tendre et par lesquels s'édifient les capitales. Partout, la foule nombreuse et souvent écartée par le cortège de quelques cardinals, partout la foule active, vivace, affairée, marchait dans les gravats, la sciure, la poussière calcaire. C'est le signe des âges de richesse que d'y voir les souliers brodés de la puissance se souiller aux déchets du bâtiment. Non, Hugues de Bouville ne reconnaissait plus rien. Le mistral lui jetait aux yeux, en même temps que la poussière des travaux, un constant éblouissement. Les négoces, qui tous s'honoraient d'être fournisseurs du Très-Saint-Père ou des éminences de son sacré collège, regorgeaient les plus somptueuses marchandises de la terre, des velours les plus épais, des soieries, toiles d'or et passementeries les plus lourdes. Les bijoux sacerdotaux, croix pectorales, crosses, bagues, ciboires, ostensoirs, patènes et puis aussi plats à manger, cuillères, gobelets à nappes gravées d'armoiries tiarées ou cardinalis, s'entassaient sur les étagères du siennois Tauro, du marchand Corbolli et de maître Cachette, argenteur. Il fallait des peintres pour décorer toutes ces nefs, ces voûtes, ces cloîtres, ces salles d'audience. Les trois pierres, Pierre Dupuy, Pierre de Carmelère et Pierre Gaudrac, aidés de leurs nombreux élèves, étendaient l'or, l'azur, le carmin et traçaient les figures du zodiaque autour des scènes des Deux Testaments. Il fallait des sculpteurs. Maître Macciolo de Spolette taillait dans le Rouvre et le Noyer les effigies des saints qu'il peignait ensuite ou recouvrait d'or. Et l'on saluait très bas dans les rues un homme qui n'était pas cardinal, mais que n'escortait pas moins une suite imposante d'acolytes et de serviteurs chargés de toises et de grands rouleaux de velin. Cet homme était messire Guillaume de Coucouron, chef de tous les architectes pontificaux qui, depuis l'an 1317, rebâtissait Avignon pour la dépense fabuleuse de 5000 florins d'or. Les femmes dans cette métropole religieuse se vêtaient plus bellement qu'en aucun lieu du monde. Les voir sortir des offices, traverser les rues, courir les boutiques, tenir cours en pleine rue, frileuses et rieuses, dans leurs manteaux fourrés parmi des seigneurs empressés et des clercs fort délurés, était un enchantement du regard. Certaines allaient même fort aisément au bras d'un chanoine ou d'un évêque, et les deux robes avançaient balayant la poussière blanche d'un pas bien accordé. Le trésor de l'église faisait prospérer toutes les activités humaines. Il avait fallu construire de nouveaux établissements bordeliers et agrandir le quartier des Folieuses, car tous les moines, moinillons, clercs, diacres et sous-diacres qui hantaient Avignon n'étaient pas forcément des saints. Les consuls avaient fait afficher sur panonceau de sévères ordonnances. Il est fait défense aux femmes publiques et maquerelles de demeurer dans les bonnes rues, de se parer des mêmes atours que les femmes honnêtes, de porter voile en public et de toucher de la main le pain et les fruits dans les boutiques sous peine d'être obligées d'acheter les marchandises qu'elles ont tâtées. Les courtisanes mariées seront expulsées de la ville et déférées aux juges si elles viennent à y entrer. Mais en dépit des ordonnances, les courtisanes se paraient des plus beaux tissus, achetaient les plus beaux fruits, racolaient dans les rues nobles et se mariaient sans peine tant elles étaient prospères et recherchées. Elles regardaient avec assurance les femmes dites honnêtes, mais qui ne se conduisaient guère mieux, à cette seule différence que le sort leur avait fourni des amants de plus haut rang. Non seulement Avignon, mais tout le pays environnant se transformait. De l'autre côté du pont Saint-Benezet, sur la rive de Villeneuve, le cardinal Arnaud de Via, un neveu du pape, faisait édifier une énorme collégiale. Et déjà l'on appelait la tour de Philippe le Bel la vieille tour, parce qu'elle datait de 30 ans. Mais sans Philippe le Bel, qui avait naguère imposé à la papauté le séjour d'Avignon, tout cela eût-il existé.